Radio Okapi. Au sommaire ce matin sur Radio Okapi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré hier vendredi la centrale hydroélectrique de Busanga au Lualaba. Pour la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, la population n'a pas d'électricité car un seul mégawatt ne suffit pas. Elle plaide pour 23 autres mégawatts à ajouter. Le verdict est tombé hier vendredi 6 octobre dans l'affaire Mwanga Chuchu. Peine de mort et 100 millions de dollars américains pour préjudice causé à l'État congolais contre les députés nationaux. Acquittement pur et simple et libération immédiate pour son co-accusé, le policier Robert Mouchamalivoy. Notre invité, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Bruno Lemarquis a eu des entretiens avec les responsables des agences du système des Nations Unies au Sud Kivu et de la MONUSCO. Entretien à suivre en fin de journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal qui vous présente Lech Walasa en compagnie de Dieudonné Nyangasa qui est à la technique. Le président de la République a inauguré vendredi la centrale hydroélectrique de Busanga au Lualaba. Selon la gouverneure intérimaire de cette province, cette centrale est la plus moderne du pays. Fifi Masuka a cependant plaidé pour que la société chinoise Sinoco Hydro puisse ajouter 23 MW au 1 MW accordé à la population du Lualaba pour que celle-ci puisse aussi bénéficier des bienfaits de ses bijoux. On écoute Fifi Masuka dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Cette centrale énergétique de Busanga, qui est la plus moderne du pays, vient pallier au déficit en électricité qu'accusait Sicomine pour sa production avec une capacité totale de 240 MW. Il sied de souligner que dans les soucis d'assurer un bien-être aux populations du Lualaba, la province a initié de pourparlers avec Sinoco Hydro SA pour que 20 MW soient alloués à l'usage domestique et a obtenu la promesse ferme de cette dernière. Mais hélas, à date, seulement 1 MW est fourni à la population. Je formule donc un plaidoyer à Sinoco Hydro pour les compléments de 23 MW restants. Je salue l'attitude citoyenne de Sinoco Hydro SA qui est toujours prête à collaborer avec la province. Elle s'implique dans sa responsabilité sociétale. La population de Busanga ne peut pas voir les câbles électriques en l'air et continue à vivre sans électricité.
Autre nouvelle, dans les Hauts-Touéré, les populations locales plaident pour l'asphaltage de la route Durba Arou, longue de 180 km par la société Kibali Gold. Nous avons déjà joué notre partition avec la réhabilitation de ces tronçons en terre battue, répond Cyril Mutombo, directeur pays de Kibali Gold. Il en appelle à la responsabilité de l'État. C'était ce jeudi 5 octobre en marge d'une conférence de presse à l'hôtel Memling à Kinshasa. Cyril Mutombo, Tombo, directeur pays de Kibali Gold, au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Je vais dans le sens des populations locales de voir cette route asphaltée. Moi-même d'abord étant congolais, c'est une fierté d'avoir 180 km de route asphaltée. Mais souvenez-vous que le développement, c'est une œuvre qui demande plusieurs acteurs. Et dans ce travail, chacun a sa partition. La partition de Kibali a été celle-là, notre contribution, de commencer par ouvrir cette route dans l'état où elle est.
En terre battue.
Et nous rendons la tâche facile à l'État pour lesquels, justement, qui a cette mission régalienne de développer les infrastructures comme les routes. Nous avons fait ce qui est notre part, une contribution au-delà d'ailleurs. Nous, c'est les 0,3% de notre chiffre d'affaires que nous investissons, d'une part, d'autre part, le cahier des charges, et aussi des investissements volontaires. Ça peut entrer dans le cadre des investissements volontaires, c'est là qu'a été fait. Donc, nous sommes allés au-delà du cadre réglementaire de ce qui était attendu de nous, et nous allons applaudir le jour où les autres acteurs vont justement asphalter cette route. Ce sera pour le plaisir de ces communautés.
Au Nord Kivu, plusieurs enfants en âge scolaire se retrouvent dans des sites miniers du secteur de Bapéré. Cette entité, la plus vaste du territoire de Lubero, compte au moins 75 sites miniers, dont une quinzaine occupés par des miliciens Maïmaï. D'après la société civile du secteur de Bapéré, de nombreux enfants en âge scolaire et des femmes enceintes se retrouvent dans la plupart de ces sites, dont celui des Botambissiers, occupés par les Maïmaï NDC, qui se font appeler Wazalendo. Samuel Kakule Kaheni de la société civile du secteur de Bapéré explique au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Dans plusieurs sites miniers du secteur de Bapéré, précisément dans le site minier de Botambissi, les enfants sont rencontrés dans le site minier. Il y a des femmes enceintes rencontrées dans le site. Ça, c'est une entorse grave. Et cela a un impact négatif à la loi portant qualification de site. Aussi, dans ce site, il y a présence des groupes armés qui font la loi dans ce site. Et nous, société civile, nous condamnons cet aspect. Et c'est pourquoi nous appelons l'administration de Mena avec les autorités politico-administratives et à tous les échelons possibles de voir comment pacifier, imposer la loi là-bas pour que nos minéraux ne puissent pas être qualifiés à rouge et que nos minéraux contribuent sensiblement au développement de nos entités, pourquoi pas de notre pays, la République démocratique du Congo.
Le chef de secteur de Bapéré, Kambakamba Maneno, qui reconnaît les faits, dit pourtant avoir ordonné l'évacuation de ses enfants avant la rentrée scolaire. De son côté, le chef de division de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Salomon Chalumo, dit ne pas être au courant de la situation. Il promet toutefois de s'y investir. Justice militaire à présent, peine de mort contre le député national Edouard Mwanga Chuchu, acquittement pur et simple et libération immédiate pour son co-accusé, le policier Robert Moucha Maliroi. C'est la sentence prononcée vendredi 6 octobre au procès de l'ancien patron de la société minière des Bisunzu à Masisi au Nord Kivu par la haute cour militaire à l'audience publique à la prison militaire d'Ndolo. Mwanga Chuchu a été aussi condamné à la réparation de l'ordre des 100 millions de dollars américains pour les préjudices causés à l'État congolais et à payer les frais d'instance en ayant 8 jours, faute de quoi il y sera contraint. Reportage de Jeff Ngoy.
Après 3h30 de prononcé de l'arrêt, comment la haute cour répond à la culpabilité des prévenus Mwanga Chuchu et Moucha Maliroi? Le juge président Kalala Robert.
Ah, pour le député national, oui. Pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui. Pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui. Pour la trahison. Pour le prévenu commissaire principal Moucha Maliroi Robert, dit non établi en fait comme en droit, l'infraction de violation de consigne mise à sa charge, l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite.
Il s'agit d'un arrêt inique, d'un trophée politique guidé par une haine ethnique, réagit la défense du député Maître Thomas Gamakolo.
Nous ne pouvons pas accepter que notre État, qui est un État de droit, qui concourt à construire une nation, puisse accepter un tel arrêt. C'est pourquoi nous ne concevons pas de baisser les bras. Nous allons nous pouvoir en cassation contre cette décision.
La Cour n'ordonne pas la déchéance de Mwanga Chuchu pour usurpation de la nationalité congolaise comme exigé par la partie civile, car elle estime qu'elle n'a pas été saisie en contestation de sa nationalité congolaise. Elle n'ordonne pas non plus sa déchéance du député national, cette compétence étant réservée à la Cour constitutionnelle.
Justice encore, le collectif des avocats du journaliste Stani Boudjakera dénonce les irrégularités dans la détention de son client et demande une fois de plus sa mise en liberté provisoire. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi à Kinshasa, le collectif affirme qu'aucun élément tangible n'indique à ce jour que le directeur des publications adjoint d'actualité.cd et correspondant des Jeunes Afriques pourrait tenter de se soustraire à la justice tant son domicile est connu, tant son identité ne soulève le moindre doute, encore que des indices sérieux de culpabilité allégués par le parquet ne semblent nullement établis. On écoute Maître Ndikoulou Yana dans cet extrait que nous propose Grâce Hamzati.
Il y a des irrégularités dans la mesure où notre client, M. Stanis Bujakira, est toujours en détention au-delà du délai de 15 jours que le tribunal de paix avait accordé pour la prolongation de la détention préventive du parquet. Donc, à ce stade-ci, il n'est pas informé de la suite de l'instruction, de la suite de l'enquête. Il ne sait pas si l'enquête se poursuit, si l'affaire a été transmise au niveau du tribunal, donc il n'est pas saisi, par exemple, d'une citation. Donc, nous sommes en train de considérer à ce jour que la détention est totalement irrégulière. La levée de la détention ou la mise en liberté provisoire, en attendant que l'enquête puisse se poursuivre, d'autant plus que ces téléphones, qu'on considère comme étant les éléments principaux dans l'enquête, sont encore entre les mains de la justice. Donc, sa propre personne physique n'a absolument rien à voir. Il a accepté de déférer à toute convocation du parquet. Donc nous sommes en train de penser qu'il a fait preuve de collaboration en répondant aux questions de la justice sans embâche et il est prêt à déférer à toute convocation de la justice.
Pour sa part, le journaliste Peter Tiani, directeur général des Perfect Television, a été empêché de se rendre à Lubumbashi ce vendredi à l'aéroport international d'Injili par la direction générale des migrations DGM. Selon son témoignage, ceux qui l'ont empêché lui ont fait savoir que cette interdiction de voyager viendrait de la hiérarchie, sans préciser de quelle hiérarchie il s'agissait. Toutefois, il dit être libre malgré cet incident. Autre information dans ce journal, le président Félix-Antoine Tshisekedi dépose son dossier ce samedi à la Commission électorale nationale indépendante comme candidat unique de l'Union sacrée lors des élections du 20 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé vendredi le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation et président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso Nkodia appelle à cet effet tous les partis politiques et membres de l'Union sacrée à accompagner le candidat unique de leur plateforme politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au dépôt de sa candidature à la CENI ce samedi 7 octobre 2023. Christophe Mbosso Nkodia est au micro de Michel Kifindangoy.
Il faut tirer les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi, l'unique candidat de l'Union sacrée de la Nation, à l'élection présidentielle. C'est notre candidat. Et la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 8. Donc, nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques membres de l'Union sacrée à venir nombreux demain à la Gombe. Nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI. Il y a 11 candidats, nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner.
Retournons au Nord Kivu. La coalition des groupes armés locaux d'Iwazalendo a investi ce vendredi la localité de Kichanga. Cette localité stratégique du territoire des Masisi relie l'axe Goma-Masisi-Walikale. Selon des sources locales, c'est après un bref affrontement avec les M23 dans la zone. Dans un communiqué, le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu accuse les rebelles du M23 d'avoir lancé vendredi deux bombes sur les positions des FRDC à Kibumba dans les territoire de Nyiragongo. Les détails avec Merveille Hassani.
Dans ses communiqués, les porte-paroles du gouverneur du Nord Kivu parlent de positions avancées de l'armée qui ont été la cible des deux bombes du type mortier lancées par les M23. Tout en prenant à témoin la communauté internationale et régionale, le colonel Guillaume Djike Kaiko prévient qu'en cas de provocation exagérée, le FARDC se réserve le droit de riposte. De son côté, les porte-paroles du M23 accusent les gouvernements congolais d'amplifier les attaques à l'arme lourde et les bombardements dans les zones que la rébellion avait remise aux forces de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Dans un tweet publié ce vendredi dans la soirée, Larence Kanyuk a dit que le M23 se défend sans donner plus de détails. Depuis quelques jours, de violents combats entre la coalition de groupes armés locaux dits Wazalendo et les rebelles du M23 sont signalés dans certaines zones du territoire de Masisi.
Toujours au Nord Kivu, le calme est revenu ce vendredi matin à Goma, et ce après une vive tension qui a coûté jeudi la vie à 7 personnes, dont 2 policiers dans les quartiers Mugunga, l'une des agglomérations les plus peuplées et située dans le sud de la ville de Goma. La tension est montée d'un cran lorsque la police a voulu installer des sinistrés de l'éruption volcanique de 2002 dans le site leur octroyé par les autorités provinciales. Les corps des victimes sont actuellement gardé sur ordre des autorités à la morgue de l'hôpital provincial. Le point avec Gabriel Wamenya.
La tension est montée d'un cran aux environs de 13h lorsque les éléments de la police de la commune de Karisimbi ont tenté d'installer les familles des sinistrés de l'éruption volcanique de l'année 2002 dans les lopins de terre leur attribués par les autorités compétentes sur l'avenue Lushagala dans la cellule de Lusale en commune de Karisimbi. Selon les responsables du quartier Mugunga qui confirment l'information, c'est contre toute attente que les habitants vivant sur l'avenue Lushala ont été surpris par l'opération de bornage et de mesurage de leur parcelle supposé par les services compétents dont la police. N'ayant pas bien digéré cette opération de déguerpissement, la population en colère s'en est prise à la police et il s'en est suivi un jet de pierre contre les éléments des forces de sécurité. Se sentant sérieusement prise à partie par la population, la police a procédé à des tirs de sommation, affirme le chef de quartier Safari Mbalibukira. C'est ce qui a encore ravivé la tension et c'était la confusion totale. Ce cadre de base affirme qu'après les échauffourées, 7 personnes ont trouvé la mort, dont 2 policiers, parmi eux un major et 5 civils. Les chefs de quartier Mugunga plaident pour l'implication des autorités compétentes pour départager les 2 parties en conflit. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a démis de ses fonctions son premier ministre Patrick Atti en poste depuis 2021. Un nouveau gouvernement devrait être formé prochainement à 2 ans de l'élection présidentielle. Et puis un groupe d'experts des Nations Unies qui réalise un rapport sur les discriminations et les violences à l'égard des femmes et des filles en Mauritanie a en conférence ce samedi à Nouakchott, une intervention qui a lieu en plein contexte des polémique au sujet d'un nouveau projet de loi en examen relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes, rejeté par des imams religieux et parlementaires car jugé contraire aux principes de la charia.
L'invité.
Notre invité, c'est le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Bruno Lemarquis a eu des entretiens avec les responsables des agences du système des Nations Unies au Sud Kivu et de la MONUSCO. Cela après avoir pris part à un symposium sur la localisation de l'aide humanitaire. Que peut-on retenir du séjour de Bruno Lemarquis au Sud Kivu? Quel rôle les agences de l'ONU vont jouer après le départ de la MONUSCO? Réponse avec Bruno Lemarquis au micro d'Emmanuel Elamedi Wakabedi.
Monsieur Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes au Sud Kivu, à Bukavu. Qu'est-ce qui vous amène?
Alors, c'était une visite de quelques jours qui m'a amené avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de participer à un symposium des ONG congolaises. Si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'un tel symposium avec une telle ampleur qui a lieu en RDC sur le thème de la localisation, c'est-à-dire comment faire pour que les organisations locales, les organisations nationales, dans l'aide humanitaire, mais également dans les actions de développement, soient vraiment soutenues, que leurs capacités soient renforcées, que les financements leur soient accessibles, etc. Donc c'était vraiment un forum très très riche qui a débouché sur une espèce de déclaration de Bukavu par rapport à la localisation. Ça c'était le premier objectif. Le deuxième c'était de discuter avec les parties prenantes des Nations Unies sur la question de la transition de la MONUSCO.
Pour commencer par le premier point, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces symposiums et de la situation humanitaire actuelle? On sait qu'au Sud Kivu, il y a bien sûr une communauté humanitaire forte qui travaille malgré les catastrophes et autres besoins.
Alors la situation humanitaire au niveau du Sud Kivu est grave. Disons qu'il y a à peu près 1,7 million de personnes déplacées internes, c'est-à-dire des gens qui ont dû quitter leur maison et qui sont soit dans des communautés hôtes ou soit dans des sites de déplacés. Donc c'est 1,7 million de déplacés, ce qui correspond à peu près à un quart de la population de la province. Et puis, au sud Kivu, il y a également des besoins humanitaires qui sont liés aux catastrophes. Et on a bien sûr en tête la catastrophe de Kalehe. Donc les acteurs humanitaires sont nombreux au sud Kivu. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour apporter cette aide humanitaire. Il y a un certain nombre d'obstacles et de défis auxquels ils font face chaque jour. Il y a parfois des problèmes d'accès. Il y a la question du financement. Le financement humanitaire pour la RDC. Les besoins sont immenses. Pour le plan de réponse humanitaire de 2023, par exemple, nous visions apporter une assistance humanitaire à 10 millions de personnes, donc ce qui prend énormément de ressources. Et donc, régulièrement, la réponse humanitaire en RDC est sous-financée. C'est de nouveau le cas cette année, puisque pour l'instant, on est à peu près à 30%, alors qu'on est bientôt à la fin de l'année.
Alors, vous avez eu des entretiens avec les responsables des agences ici, toutes les agences du système des Nations Unies. Vous avez parlé autour de la transition de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel rôle vont jouer ces agences après?
Alors, la transition de la MONUSCO et le retrait de la MONUSCO, c'est une discussion très active. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait connaître sa position, notamment récemment à l'Assemblée générale des Nations Unies, en demandant un retrait accéléré et non précipité. Ce retrait commencera au sud Kivu. Comme vous le savez, la MONUSCO, pour le moment, est uniquement dans trois provinces, l'Ituri, le nord Kivu, le sud Kivu. Donc la prochaine province de laquelle la MONUSCO va se retirer, c'est le sud Kivu, et donc le processus va bientôt être enclenché. Ce qu'il faut savoir, c'est que la MONUSCO va se retirer, mais les Nations Unies vont rester. Les Nations Unies, c'est une grande famille avec des agences du système des Nations Unies qui sont déjà au sud Kivu, le PNUD, l'UNICEF, l'OIM, le Programme Alimentaire Mondial, la FAO, l'Organisation Mondiale de la Santé, le Haut Commissariat aux Réfugiés, le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme. Elles vont rester ici, elles vont faire plus. Avec le retrait de la MONUSCO, elles vont faire plus pour continuer à appuyer les institutions provinciales et pour consolider tous les acquis qui ont été générés au cours des années avec l'appui de la MONUSCO dans le domaine de la justice, dans le domaine de, par exemple, l'appui au PDDRCS, les droits de l'homme, la protection de l'enfance. Les agences vont se mobiliser pour continuer à être en posture d'appui aux institutions congolaises. Donc, il va falloir que la province et de nombreux acteurs s'habituent à ce retrait. Les acteurs de la paix sont là, les acteurs du développement sont là, les acteurs humanitaires sont là, y compris la famille des Nations Unies. Donc c'est à ça qu'on doit s'habituer à la province du Sud Kivu.
Voilà. Merci Bruno Le Marquis. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et c'est par cet entretien que nous mettons fin à cette édition du journal, supervisée par Alain Irung. Mesdames, Messieurs, vous aviez raison de l'avoir écouté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.